Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Les grands titres de ce mardi 21 janvier, l'assurance que le nouveau virus en Chine ne causera pas de problème en Australie. Les groupes d'aide se joignent aux appels pour que le gouvernement fédéral en Australie fasse plus sur le changement climatique. Tennis, Ashleigh Barty, l'Australienne, passe au deuxième tour de l'Open d'Australie alors que Nick Kyrgios se prépare pour son match du premier tour ce mardi. Le Chief Medical Officer en Australie, Brendan Murphy, déclare qu'il y a peu de risques pour l'Australie en ce moment d'un nouveau virus qui a tué 3 personnes en Chine. Il y a eu plus de 200 cas confirmés, tous chez les adultes et des cas limités de transmission humaine. Le principal symptôme du virus est une fièvre. 3 vols directs par semaine arrivent en Australie, tous vers Sydney, depuis Wuhan. Les passagers seront accueillis par le personnel de sécurité et de santé. On écoute Brendan Murphy.
We've had lots of experience with this in the past. We've had the flu pandemics. We've had the Ebola. We were prepared for Ebola. So most of our hospitals, our emergency departments, our state public health departments are well prepared and with protocols. But obviously we need to make sure that they're up to date and revised and that everyone is aware of this. So we're a very well prepared country to deal with a new emerging infectious disease.
L'opposition fédérale affirme qu'elle attend toujours à ce que le gouvernement délivre un excédent budgétaire cette année. Le gouvernement a promis 2 milliards de dollars de dépenses pour aider les victimes des feux de brousse. Et le trésorier fédéral, Josh Frydenberg, déclare que l'impact économique des feux de brousse signifie qu'il ne sait pas si le gouvernement peut maintenant livrer l'excédent budgétaire promis. Le porte-parole de l'opposition, Jason Clare a déclaré sur Sky News qu'il ne s'attend pas à ce que les mesures d'aide pour les feux de brousse consomment l'intégralité du surplus prévu.
They said back in December that they'd deliver a $5 billion surplus. Now they've allocated $2 billion over 2 years to the bushfire recovery. So we'll have to wait and see what comes in May. But that doesn't mean everything's hunky-dory. The economy is weak, everyone knows that. Interest rates are at emergency levels, wages are flat, confidence is down, and the disaster of the bushfire just makes this worse. There's no doubt about that.
Hier, le gouvernement fédéral a annoncé que les subventions accordées aux petites entreprises touchées par un incendie passeront de 15 000 à 50 000 dollars. Le premier ministre Scott Morrison a déclaré sur 7 News que le gouvernement faisait tout son possible pour ramener les entreprises dans les villages et les villes touchées par le feu.
Up until right. Now, there's been $15,000 grants in New South Wales. We're increasing that to $50,000. Now, that's to help them with repairs and the cleanup and these sorts of things in their businesses, to give them that support. They go through the state government-run organisations, Services New South Wales and New South right. Wales and similar organisations in Victoria and Queensland. The states actually run these grant programs. We pay for them and they do the assessments. They've got the skilled assessors.
Le gouvernement fédéral rappelle aux familles qu'un montant supplémentaire de $400 est payé par enfant dans le cadre du programme Australian Government Disaster Recovery Payment. Le paiement supplémentaire pour chaque enfant de moins de 16 ans a commencé hier lundi. Le ministre de l'Environnement de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Keane, a demandé au gouvernement fédéral d'abandonner son utilisation de compte des crédits d'émission accumulés du protocole de Kyoto pour atteindre son objectif d'émissions pour 2030. Le ministre du Commerce, Simon Birmingham, a déclaré sur Sky News que le gouvernement fédéral voulait battre son objectif de réduction des émissions de 26 à 28% d'ici 2030.
The point that has been made, including by Matt Keane, that this all has to be done in ways that don't threaten our economy or undermine Australian jobs is a crucial one, but that is we're continuously looking for those new opportunities of new technologies that don't require new taxes or penalties on Australians, but can absolutely put us at the forefront of transformation to be able to achieve even higher levels of emissions reductions than are currently forecast.
Et puis, quatre des principales organisations d'aide internationale en Australie se joignent aux appels pour que le gouvernement fédéral prenne des mesures importantes contre le changement climatique. World Vision Australia, Oxfam Australia, Plan International Australia et Save the Children Australia appellent à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre plus dramatiques. Elles disent que de nombreux pays vont souffrir si l'on ne fait pas plus. La nouvelle dirigeante de l'opposition dans le territoire du Nord rejette les informations selon lesquelles elle sera une chef de courte durée. Lia Finocchiaro a hérité de la direction du Parti libéral du territoire du Nord après que le seul autre membre du parti au Parlement, Gary Higgins, a démissionné, invoquant des problèmes de santé. Les prochaines élections dans le territoire du Nord doivent avoir lieu dans 7 mois. Et en Tasmanie, un nouveau chef du gouvernement, Peter Goodwin, qui remplace Will Hodgman, qui prend sa retraite politique. Le Fonds monétaire international avertit les pays qu'ils doivent coopérer sur des questions clés, y compris le changement climatique, pour améliorer les perspectives économiques à travers le monde. L'organisation a pris la parole avant le Forum économique mondial de Davos en Suisse. Mounia Daoudi pour Radio France Internationale.
Les mauvaises nouvelles viennent des pays émergents et notamment de l'Inde où le FMI a fortement revu à la baisse ses prévisions de croissance. 5,8% cette année contre 7% prévu en octobre. En cause, un déclin de la consommation et des investissements dû au durcissement de l'accès au crédit, des déficits budgétaires accrus et des retards pris dans les réformes structurelles. Le fonds a également abaissé ses projections pour le Chili en raison des troubles sociaux et pour le Mexique à cause de la faiblesse prolongée de l'investissement. Ces mauvaises nouvelles sont toutefois atténuées par le dégel entre Washington et Pékin et la signature de la phase 1 de l'accord commercial entre les deux puissances. Une bouffée d'oxygène pour l'économie mondiale, mais pas suffisante aux yeux du FMI qui prédit une croissance poussive pour les mois à venir. Les risques sociaux et géopolitiques persistent en effet. Un regain des tensions au Moyen-Orient pourrait perturber l'approvisionnement mondial en pétrole et affaiblir des investissements commerciaux déjà timides, note le FMI. Mais l'économie mondiale revient de loin. Il y a un an, la guerre commerciale entre Chinois et Américains avait fait chuter la croissance à 2,9%, son plus bas niveau depuis la crise financière.
Le premier sommet Grande-Bretagne-Afrique sur les investissements s'est tenu hier lundi à Londres. Reportage Magali Lagrange pour RFI.
Des chefs d'État venus d'Afrique anglophone et francophone, le Nigérian Muhammadu Buhari, le Rwandais Paul Kagame, les présidents de RDC Félix Tshisekedi ou de Guinée-Conakry Alpha Condé, ils sont 16 à avoir fait le déplacement. Au centre des discussions, les investissements et les relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Afrique. Londres a annoncé des accords commerciaux pour plus de 7,5 milliards d'euros entre entreprises britanniques et africaines. Tout à l'heure, le Premier ministre britannique a évoqué l'immigration et la lutte contre le changement climatique. Boris Johnson affirme que la Grande-Bretagne sera plus ouverte aux migrants africains après le Brexit. Il promet aussi que son pays n'investira plus dans l'extraction de charbon ou dans sa combustion pour produire de l'électricité sur le continent, mais se concentrera sur une transition vers des alternatives faibles en carbone. Quelques jours avant sa sortie de l'Union européenne, Londres affiche donc sa volonté de renforcer sa présence sur le continent. Le commerce avec l'Afrique a augmenté de 14% et les investissements de 7,5%. Dernier.
L'état d'urgence décrété à Richmond, aux États-Unis, avec la manifestation des pro-armes contre un projet de loi visant à restreindre l'achat d'armes à feu en Virginie. Loïc Loury, RFI.
Les armes sauvent des vies. Cet autocollant orne la poitrine de la plupart des manifestants. Julian, notamment, vient du Mississippi. Il fait la queue dans le froid pour rejoindre le Capitole et défendre son droit à porter une arme.
Je crois au Second Amendement. Je crois que porter une arme, c'est le fondement de toute République libre.
Pas de guerre civile en vue. Pour autant, rassure-t-il, face à la crainte de débordement, tout va bien se passer.
Les gens armés ne sont pas violents. Les manifestants ici ne sont pas violents. Je crois qu'ils sont détendus. Tout va se passer sans accroc.
De l'autre côté de la barrière, Robert, qui se dit milicien, sans plus de précision, reste lui à l'extérieur. Il ne compte pas lâcher le fusil d'assaut qu'il porte en bandoulière.
Juste pour ma protection, je veux dire, si quelque chose arrive à l'intérieur, vous êtes piégé, pas moyen de s'échapper. Mais ce n'est pas politique, nous sommes ici pour défendre la Constitution.
Les supporters de Donald Trump pourtant ne sont pas loin, comme Jean, qui promet qu'il y a bien des démocrates aujourd'hui à Richmond.
C'est très bipartisan. La Virginie compte des démocrates et des républicains et la plupart comprennent l'importance du second amendement. Regardez le Venezuela, tous ces autres pays. On leur a pris leurs armes et maintenant ce sont des pays socialistes et les gens souffrent beaucoup.
Mais sa démonstration devrait plutôt parler aux détenteurs d'armes qui en 2016 ont voté en bonne majorité pour l'actuel président.
On passe en Polynésie française avec la lutte contre la drogue de synthèse par les autorités. Précision de Bruno Ferrand pour RFI.
Localement appelée ICE, autrement dit la méthamphétamine, cette lutte déclarée grande cause territoriale en Polynésie, point d'interrogation, c'est en tout cas le souhait exprimé par plusieurs membres de l'Assemblée locale, au premier rang desquels le représentant indépendantiste et ancien sénateur Richard Touéiava.
C'est très clair, ça veut dire qu'on souhaite que, au même titre que le diabète, il puisse y avoir un focus maximal des institutions politiques, mais des institutions administratives, que ce soit celles de l'État, des communes et du pays, pour lutter contre ce fléau social, tout simplement parce qu'on a constaté, avec beaucoup d'effroi, la recrudescence ou la croissance exponentielle, d'abord du trafic, par les perquisitions, les saisies, et puis les arrestations, et puis les procès qui s'en suivent, notamment les deux dernières années. On lit à travers la presse les réquisitions du procureur, en tout cas du parquet au tribunal de Papeete, qui commence réellement à s'inquiéter parce que l'arsenal judiciaire n'est presque plus à même de faire face à ce fléau social, qui mérite un traitement réellement musclé, de la part de l'État, mais aussi du pays. On voit apparaître une véritable mafia organisée et armée. C'est inquiétant.
Sport avec le tennis, bien sûr. Nick Kyrgios fait partie d'une douzaine d'Australiens qui jouent leur premier match du premier tour ce mardi à l'Open d'Australie. Kyrgios, tête de série numéro 23 et l'Australien le mieux classé du tournoi masculin, affrontera l'Italien Lorenzo Sonego ce soir. Et puis hier, Ashleigh Barty, l'Australienne, a démarré son tournoi, bien qu'elle ait été poussée à un troisième set par son adversaire, l'Ukrainienne Lesia Sourenko. Ashleigh Barty, numéro 1 mondial, a finalement remporté le match 5-7, 6-1, 6-1. Elle déclare ne pas être très préoccupée par le fait qu'elle a commencé lentement.
Was pressing a little bit early. I made a few too many errors and was able to tighten the screws in the second set and then run away with it. So I think yes, it was disappointing to not start as well as I would have liked, but all in all, I think it was really nice to be able to tighten the screws and then run away with it in the second and third.
La Française Kristina Mladenovic, éliminée ce matin par Karolina Pliskova, la Tchèque, en deux manches, 6-1-7-5. Caroline Garcia, la Française, a battu l'Américaine Madison Brango en trois manches, 6-7-6-2-6-2. Et la grande surprise, la Tunisienne Ons Jabeur, qui a éliminé la Britannique Johanna Konta, 13e mondiale, 6-4-6-2. Fiona Ferro, la Française, a battu la Belge Alison Van Houtvank en deux manches, 6-2, 6-1. Et dans le journal des sports tout à l'heure, avec notre collègue Christophe Mallet, on reviendra sur la performance de Roger Federer. On passe à la météo pour ce mardi en Australie avec Perth maximale de 25 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 21, Hobart 20, Canberra 25, Sydney 31, Brisbane 35, Darwin 32 et à Alice Springs un maximal de 37 degrés. Un rappel des grands titres de ce mardi 21 janvier, l'assurance que le nouveau virus en Chine ne causera pas de problème en Australie. Les groupes d'aide se joignent aux appels pour que le gouvernement fédéral fasse plus sur le changement climatique. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.